petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bienvenue à vous, chères oreilles buissonnières. Avez-vous le droit d'écouter votre émission préférée quand vous le voulez? Avez-vous le droit d'écouter les yeux fermés, les doigts dans le nez, les pieds en l'air, les mains par terre, les genoux de travers? Vous donnez-vous le droit vous-même de ne pas tout écouter? Seulement les voix d'enfants ou celles du grand savant, ou même juste les musiques ou les histoires magiques? Vous donnez-vous le droit d'arrêter la radio tout de go pour aller jouer, cabrioler, rire et courir? Mais avez-vous le droit de cabrioler dans les prés et les champs, de trouer vos collants et de salir vos gants, d'écorcher vos genoux, de griffer vos petites joues? Avez-vous le droit de rentrer essoufflé pour prendre un bon goûter, tartine de miel et bol de lait avant, oh, désespoir, tous les devoirs du soir? Avez-vous le droit alors de ne pas travailler, ne pas réviser grammaire ni vocabulaire, physique ni arithmétique? Avez-vous alors le droit d'aller vous coucher exténué après une histoire doucement racontée au creux d'une oreille au pays des merveilles? Bref, droit de ceci, droit de cela, par ici ou par là, à l'envers ou à l'endroit, la question se pose aujourd'hui. Les droits des enfants ont-ils toujours existé et existeront-ils toujours? C'est Catherine Claveau, conseillère de Dominique Versini, défenseur des droits des enfants, qui vous répondra aujourd'hui en votre honneur, chers enfants.
À la préhistoire, peut-être que les enfants avaient moins de limites. Ils étaient peut-être plus libres.
Avant, vers 18e et 19e siècle, les droits de l'enfance, ils n'existaient pas parce qu'on les utilisait pour les faire travailler dans les mines et surveiller les machines.
Ils avaient des parents, par exemple, qui pouvaient les taper ou quoi, et puis que, en fait, on n'avait pas le droit de parler. C'était eux qui nous disaient ce qu'on devait faire.
Comme dans l'époque 39-45, comme le maître nous a expliqué, les enfants, ils n'étaient pas libres. Ils étaient emportés dans des trains ou...
Les droits des enfants, ils n'existaient pas parce qu'ils faisaient ce que les Allemands y voulaient.
Aujourd'hui, maintenant, on a le droit de sortir après 7 heures parce que, par exemple, avant, pendant la guerre, on n'avait pas le droit.
Moi, je ne suis pas d'accord avec mon camarade parce que les enfants, ils n'ont pas le droit de sortir quand ils veulent parce que il y a après une heure précise, si la police elle les voit tout seul, elle peut voir les parents et elle peut.
Il y a une heure de limite qu'on peut sortir dehors ou pas sortir dehors. C'est pour notre sécurité. Par exemple, si on se fait mal et personne ne le sait, on peut mourir.
Avant, on ne pouvait pas s'exprimer pour les droits. Maintenant, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on ressent, on peut dire ce qui ne va pas aussi et
de s'exprimer quand on n'a pas vraiment envie de le faire. On a le droit aussi de sortir. On a des droits, des droits aussi qu'on n'a pas le droit de faire pour notre sécurité.
Pour des enfants un petit peu plus grands, il y a le juge des enfants, je crois, un truc comme ça. Ils peuvent... je sais même pas ce qu'ils leur font.
Par exemple, il y a les assistantes sociales, on peut leur confier des choses.
Aujourd'hui, nous, on est libres. Et dans d'autres pays, par exemple en Égypte, ils sont encore un peu à l'esclavage.
Il y a peut-être des pays, ils n'auront pas les mêmes règles et ils n'ont pas les mêmes règles.
En Algérie, à une époque, les filles n'avaient pas le droit de sortir à part aller à l'école. Elles devaient faire manger, le ménage, tout ça. Même à notre âge, 10 ans, elles devaient faire tout ça. N'avaient pas le droit de se couper les cheveux, tout ça. Donc, à mon avis, il y a des pays où vraiment... Les droits, il y a pas beaucoup de droits, en fait.
Par exemple, moi, en Albanie, quand j'avais 7 ans, ma mère, elle travaillait dans un bar et moi, je l'aidais. Des fois, quand elle n'était pas là, je l'aidais, je distribuais des trucs et tout. Moi, j'aimais bien. J'ai rencontré des gens.
J'aimerais bien qu'on ait le droit de faire des petits boulots, comme travailler dans les bars, servir des fois un petit peu.
La personne que je connais, elle travaille là-bas. Elle n'a que 10 ans et elle gagne de l'argent. Tout le monde, tous les enfants voudraient bien avoir un travail.
J'aimerais qu'on ait le droit, c'est-à-dire, je veux pas dire l'esclavage, mais le droit, si on veut, de pouvoir faire un travail et comme ça, on pourrait s'acheter des trucs.
Mais quand on dit travailler, que les enfants aiment bien travailler, c'est pas l'esclavage, c'est travailler comme serveur ou pour s'amuser. Nous, ça nous amuse, pas les adultes parce qu'ils font ça tous les jours, mais nous, ça nous amuse, c'est pour s'amuser. Et mon père m'a raconté que avant ils avaient le droit, ils pouvaient prendre leur vélo et puis sortir dans la forêt sans rien dire. Puis leurs parents disaient rien du tout. Là, on a, je dirais, moins de droits. Et après, avant, on en avait plus. Puis après, encore avant, on en avait moins. Et voilà, donc ça évolue ou ça diminue.
Les droits des enfants évoluent au fur et à mesure des époques.
Je pense qu'elles existeront toujours, même peut-être qu'elles seront modifiées, mais pour des raisons meilleures.
Moi, je pense que ces droits-là, ils vont rester longtemps, parce que c'est écrit. Voilà. Les droits des enfants, en fait, avant, elles n'existaient pas, elles ont changé. Donc ça se peut que dans le futur, elles rechangent.
Plus tard, l'école sera peut-être payante, parce qu'à un moment donné, ils vont vouloir se faire de l'argent. L'État, et vu que certaines familles n'ont pas assez d'argent pour si l'école est payante.
Peut-être qu'en fait, en changeant de président, parce que chaque année, ça change, enfin pas tellement chaque année, mais voilà. Le changement de président fait qu'il y a des nouvelles lois qui s'imposent, des nouveaux droits. J'espère juste que ça va pas vraiment encore changer et que ça revienne comme c'était avant.
Au début de la révolution industrielle, les enfants constituent une main d'œuvre bon marché, très utilisée, employée le plus souvent à trouver les machines. Ils travaillent aussi en fait.
Pour tes étudiants, c'est de moque. Maman, n'admet, t'ingrita.
Le cœur plein de joie sous les étoiles en fête, danse Pitocha en chantant à tue-tête. L'avenir est évident dans les yeux de nos enfants, la liberté nous sourit sous le ciel de Mongolie. C'est Bombaya, Bombaya, Bombaya plein de joie. Danse Pitocha sous les étoiles en fête, le cœur plein de joie et plus rien ne l'arrête. Les enfants font la musique, le vent souffle la rythmique, lune et soleil au refrain, ensemble tape des mains. C'est Bombaya, Bombaya, Bombaya plein de joie.
C'était Bumbaya, chanté par les ogres de Barbac, mais aussi par les jolies voix d'enfants d'un orphelinat en Mongolie. parce que le droit de chanter, c'est quand même la joie de chanter. Et la joie de chanter, c'est la joie d'exister. Et la joie d'exister, c'est être un humain bien campé sur ses deux pieds. Mais maintenant, laissons non la chanson, mais la parole à une de ces grandes personnes qui, de par le monde, redonnent le droit aux enfants de grandir sur leurs deux pieds dignement.
Donc la question des droits de l'enfant, non, elle n'a pas existé comme ça, elle est assez récente. On peut dire qu'elle est vraiment du fait d'hommes et de femmes du XXe siècle, et tout particulièrement après ce qu'ont vécu les États européens à travers la guerre de 45. Qu'est-ce qu'on a amené d'ailleurs à ce moment-là, hein? Quelle a été l'idée? L'idée, elle a été de penser que les droits de l'homme étaient une grande avancée, bien entendu, mais que pour autant, elle n'avait pas pensé les droits de l'homme pour l'enfant, puisque l'enfant n'est pas, n'a pas la même, les mêmes facultés, les mêmes potentialités qu'un homme adulte ou qu'une femme adulte. Et puis aussi parce que dans les grandes guerres, finalement, les plus vulnérables sont toujours les plus exposés et ce sont par définition les femmes, souvent, et les enfants. Les femmes parce qu'elles sont mamans et qu'elles protègent naturellement leurs petits oisillons. Et puis parce que les enfants font les frais des guerres, quelles qu'elles soient, y compris des guerres civiles. Probablement que... il faut faire honneur à la fois à une conscience au XXe siècle d'hommes comme de grands pédagogues qui ont commencé à dire que l'enfant était à la fois une personne, mais qu'il fallait s'y intéresser autrement, qu'il fallait lui donner la possibilité de croître, de grandir correctement. Ce qui n'était pas le cas en France au début du XXe siècle, les enfants travaillent. La première loi qui permet aux enfants de diminuer leur impact de travail, elle est autour de 1900, je connais plus mes dates, mais 14, 17, où on légifère les obligations de travail des enfants. Et les enfants n'ont pas le droit de travailler avant 8 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 12 ans.
Alors moi, ça me soulève une question. Est-ce qu'on ne considérait pas en fait l'enfant comme un petit adulte en miniature? Donc sans ses potentialités propres, ses caractéristiques propres, oui. D'après ce que j'entends.
C'est vraiment ce qui se passait à l'époque. On croyait d'abord au 19e siècle, fin du 18e, 19e siècle, on pense que l'enfant est crétin, on parle de crétinisme. C'est-à-dire que les humains, curieusement, pensent qu'on a un état enfant et puis d'un coup on a un état adulte. Alors c'est vrai que à l'adolescence ça allait beaucoup plus vite que pour nous. C'est vrai aussi que le taux de vie et de mortalité, enfin surtout de mortalité, était plus important et les gens décédaient plus jeunes. Donc on avait une précipitation comme ça. Mais on parlait de crétinisme. C'est Rousseau déjà qui amène l'idée d'un enfant qui est un sujet, qui est quelqu'un d'intelligent. Et puis, au début du 19e siècle, on a encore tendance à croire quand même à cet enfant miniature, adulte miniature. Et tout est bouleversé. Avec la Russie, notamment Makarenko qui s'intéresse à des enfants qui sont tout seuls et qu'il fait travailler en communauté. Puis il y en a des tas d'autres. Il y a Korjak, au niveau de la guerre, qui rassemble un certain nombre d'enfants et qui parle de la capacité des enfants à pouvoir s'organiser et s'autonomiser. Et là, on commence vraiment à imaginer que l'enfant n'est pas un adulte miniature, mais un... Moi, j'aime pas trop le dire comme ça, mais je le dis quand même, un être en devenir. Moi, j'aime bien dire un être en croissance. Mm-hmm. Voilà. Alors, à la limite, on croit tout le temps. Hein. On croit tout le temps, dans le sens que, je l'espère à tous les êtres humains, ben, les merveilleuses grand-mères, les merveilleux grands-pères sont des gens qui ont laissé croître en eux, continuer à faire croître un certain nombre de choses. Pour autant, c'est physiologique, c'est l'intelligence, c'est tout le cognitif qui vient. Hein. Donc, voilà. Il y a un phénomène extraordinaire en Europe, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est que on se met à regarder l'enfant comme un possible acteur fragile, non pas dans une fragilité négative, mais fragile dans le sens d'une jolie plante à laquelle il faut faire attention. Certains hommes et certaines femmes disent « il faut protéger les enfants de tous les phénomènes tragiques qui viennent dans la vie et leur permettre surtout d'accéder à l'éducation, à la santé, à vivre en famille, enfin tout ce qu'on peut décliner dans la Convention internationale des droits de l'enfant aujourd'hui, de telle façon à grandir correctement, est un être, un homme ou une femme de la société, libre et dans l'égalité des autres.
Un arbre bien planté, bien enraciné, si je comprends un petit peu, pour poursuivre votre métaphore.
Alors, c'est vrai que je pense qu'on parle de vulnérabilité et en même temps c'est un petit peu faux parce que l'être humain, quand il est petit et moyen grand, il a des capacités d'adaptation absolument phénoménales et il a, dès lors qu'on le place à la juste place dans une société, une capacité de fédération, de solidarité, d'altérité qui sont, ça va peut-être étonner des gens, extrêmement normal chez l'être humain à ces âges-là. Ce qui se passe après, c'est que ça se perd. Bon. Mais du coup, vulnérabilité, oui, et en même temps, grande, grande force. C'est probablement pour ça aussi qu'après la guerre, avec tous ces enfants, des enfants compris les armes, des enfants qui sont morts, l'Holocauste, etc., on a voulu préserver ce patrimoine. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Au Canada, par exemple, les enfants ont des droits bien plus avancé que chez nous. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'enfants au Canada. Donc, les enfants sont protégés, non pas comme des enfants rois, mais un peu comme une perle de l'humanité. Et du coup, la société est extrêmement attentive à ce qu'elle va mettre en place pour l'enfant. Y compris, bien sûr, quand malheureusement l'enfant ne peut pas vivre en famille ou qu'il y a des choses difficiles dans sa vie, à ce que l'État vraiment sursoie à tous les manques et vienne aider, tel que c'est dans la Convention internationale, vienne aider et puisse permettre à l'enfant d'avoir ce qu'il lui faut.
Alors justement, cette Convention internationale, quand est-ce qu'elle a été créée? À partir de quand est-ce qu'elle a été vraiment appliquée? Et est-ce que c'est dans tous les pays du monde, vous pensez?
Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un projet extraordinaire qui est né vraiment, qui a été signé par les États en 1989, avec un long processus de travail à partir de l'ONU. Il y avait déjà eu une convention avant, donc on ne va pas trop faire un cours d'histoire. Mais elle a été ratifiée en 1990. On appelle un État parti, l'État qui signe. Et l'engagement, c'est de prendre la Convention internationale des droits de l'enfant comme texte majeur qui a la suprématie sur les textes de loi nationaux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais en tout cas, c'est cette convention qui est première. Alors évidemment, quand elle a été faite, 187 pays l'ont signée, deux pays n'ont pas pu la signer.
Lesquels donc ?
La Somalie, parce que la Somalie était dans un état tellement de sinistre et de pauvreté qu'il y avait bien d'autres choses à faire et qu'il était. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention aux enfants, mais c'était malheureusement pas possible. Vous étiez peut-être petite quand. En tout cas, moi, j'ai vu tout ce qui s'était passé en Somalie, donc c'est vrai que c'était un drame humain. Et puis les États-Unis. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vos auditeurs savent pourquoi ?
Alors, on va leur poser la question. Laissons 2 secondes de silence pour les laisser réfléchir. Peut-être pourriez-vous nous aider?
Alors, je vais essayer de vous aider. Pourquoi les États-Unis? C'est un grand pays, enfin avec plusieurs États. Eh bien, il y a quelque chose d'important qui existe toujours aux États-Unis que nous n'avons, nous, plus en France, grâce à M. Badinter, qui est la peine de mort. Et la peine de mort, dans certains États, est applicable à des jeunes mineurs. Donc, tout le temps que les États-Unis n'ont pas supprimé cette peine de mort, ils ne peuvent pas ratifier cette convention, hein, puisque l'enfant a droit à la vie et qu'il est hors de question de le punir de sa vie pour des actes criminels. Hein. Donc, voilà pourquoi. Alors, il faut dire que les États-Unis s'intéressent quand même beaucoup à cette convention et sont en train de l'approcher avec un certain nombre d'avenants. Alors, je ne suis pas juriste, je ne les connais pas par cœur. Mais il faut espérer qu'un jour, les États puissent totalement abandonner, même si ce n'est que quelques-uns, il faut absolument que la peine de mort soit abandonnée, en tout cas pour les mineurs. Ça, c'est important. Alors, est-ce que cette convention est appliquée dans tous les pays ? D'abord, quand la convention a été ratifiée, l'idée, c'est à la fois c'est un texte de loi, donc c'est une obligation législative. En même temps, c'est un texte qui, qui fait que les États vont tendre vers. D'accord ? Si un État est en guerre, vous imaginez bien que c'est plus compliqué. Il va essayer de protéger ses enfants, en tout cas de ne pas les mettre dans la guerre, de leur faire porter des armes, mais ce sera automatiquement compliqué de donner toutes les protections absolues. D'accord ? Et puis on a des pays qui ont une organisation sociale qui n'est pas la nôtre. Et puis on a des pays qui connaissent régulièrement des guerres civiles, des religions qui peuvent être prégnantes dans certains pays et qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec la Convention puisque l'enfant peut choisir sa religion. Alors, donc il y avait cette idée d'essayer d'avancer. Hein, voilà. Pas seulement toujours appliquer du pur et dur face à la loi, hein, un droit là qui s'impose, mais d'essayer d'avancer. Et donc il y a des inégalités d'avancement, on peut dire ça comme ça. Il y a des pays dans lesquels les droits sont extrêmement appliqués. Vous savez, vous avez en Norvège qui a été le premier, qui a eu son premier ombudsman. On a un certain nombre de dans l'organisation sociale de la vie des enfants, beaucoup de droits éminemment respectés. Et puis, on a aussi, malheureusement, des pays qui peuvent régresser. Donc souvent, moi, quand j'envoie mes jeunes qui travaillent auprès d'enfants, qui s'approprient la Convention au début, ils disent « Oui, c'est pas possible. Dans tel pays, c'est pas avancé comme ça. Et puis dans celui-là, ça nous pose un problème moral. » Voilà, il y a cette idée de progrès, à la fois d'application de la loi et de se mettre en progression.
Alors justement, vous parlez de progrès, donc peut-être d'évolution. Est-ce que la Convention des droits de l'enfant est amenée à toujours exister ? Est-ce que parce qu'on crée un texte, du coup, il est force d'éternité ?
Vous savez, la force d'éternité, il n'y a que les humains qui la créent. Donc, s'ils gardent leur valeur morale, vous êtes assuré qu'effectivement, un texte, une grande avancée sociale, une grande avancée de droit va perdurer pendant très longtemps. Non. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, puisqu'on a des jeunes auditeurs, nous ne sommes jamais garants des plus beaux textes que nous avons écrits, y compris les droits de l'homme. On en sait quelque chose aujourd'hui. Les jeunes qui nous écoutent le savent peut-être pas encore, mais nous qui sommes un peu plus grands, nous le voyons régulièrement comme des vraies atteintes aux droits des hommes actuellement dans nos sociétés européennes, par exemple, dans nos pays européens. Donc, je dirais que la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte magnifique, aussi beau que celle des droits de l'homme, et qu'il appartient aux hommes et aux femmes qui grandissent de le rendre éternel. Donc ça veut dire que les jeunes gens qui nous écoutent, les petits, les moyens et les grands qui nous écoutent, plus ils comprendront ce texte, plus ils le comprendront dans leur façon d'agir et d'être avec les autres, plus on sera assuré de l'éternité possible de cette convention.
Alors, si vous aviez un mot ou un message à donner aux enfants, lequel serait-il ?
Alors, j'ai pas réfléchi du tout. Je pense que la chose la plus importante, c'est le respect de soi et le respect des autres. Et je fais exprès de dire le respect de soi. Parce que quand on est très jeune, petit, qu'on a 7 ans, 8 ans, 5 ans, qu'on en a 12, qu'on en a 16, on ne nous apprend pas forcément à se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, c'est écouter ses propres valeurs à l'intérieur. Et dès que l'enfant s'écoute, curieusement, il a des valeurs. Donc il se respecte et qu'il respecte les autres. Et respecter, ça veut simplement dire le droit à la différence, qu'on peut vivre ensemble en s'apportant les uns les autres, tout en étant extrêmement différent par plein de choses. Moi, mon papa, il est boulanger. Ben, moi, le mien, il est informaticien, d'accord. Ben, moi, je vis tout seul avec ma maman. Oh, ben, moi, c'est avec mon papa que je vis tout seul. Oh, ben, moi, je suis sur un fauteuil roulant parce que, ben, malheureusement, j'ai eu un accident. Eh bien, tous ces gens-là ensemble. Oh, ben, moi, je suis marron. Tiens, oh, ben, moi, je suis très blanc. Oh, ben, moi, je suis encore plus blanc, hein, parce que je suis nordique, alors évidemment. Puis j'ai plein de taches de rousseur. Voilà, c'est ce respect pour la différence et cet intérêt et de découvrir les autres qui probablement permettra que nous avancions correctement et que les enfants d'aujourd'hui, qu'on essaye de protéger, à qui on essaye de donner le maximum pour qu'ils grandissent correctement, ces enfants-là qui deviendront grands feront la même chose.
un petit peu comme une mosaïque faite de plein de choses différentes qui construit une œuvre commune, si voilà. Je vous entends bien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une œuvre, mais ça peut être aussi une très très belle table pour qu'on mange tous ensemble.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noires pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
L'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. C'est Pierre Perret qui le dit, qui sur ses notes noires et blanches galope et virevolte dans sa trop combien magnifique chanson, Lily. Eh bien, c'est d'un enfant, justement, de l'enfant, dans son unicité d'enfant, son essence d'enfant, son universalité d'enfant, que l'on va approcher maintenant, du bout des yeux, du bout des doigts, du bout des lèvres, avec ce livre. C'est quoi un enfant ? Un enfant est une petite personne. Il est petit pour un petit moment, puis il grandit. Il change sans y faire attention. Tout doucement et en silence, son corps s'allonge. Un enfant n'est pas un enfant pour toujours. Un beau jour, il change. Les enfants se pressent de devenir grands. Certains d'entre eux grandissent, semblent heureux et pensent oh, « c'est beau d'être grand, libre et de tout décider !» D'autres, devenus adultes, pensent exactement le contraire. « C'est dur d'être grand, libre et de tout décider !» Un enfant a des petites mains, des petits pieds et des petites oreilles, mais pas toujours des petites idées. Les idées des enfants sont parfois gigantesques, amusent les grands, leur font ouvrir grand la bouche et dire « Ah !» Les enfants désirent d'étranges choses, avoir des chaussures qui brillent, manger de la barbe à papa au petit déjeuner, écouter tous les soirs la même histoire. Les grands aussi ont d'étranges idées en tête. Prendre un bain tous les jours, cuisiner les haricots au beurre, dormir sans le chien jaune. Mais comment fait-on ? Demandent les enfants. Les enfants pleurent parce qu'un caillou glisse dans l'eau, parce que le shampoing pique les yeux et parce qu'ils ont sommeil, parce qu'il fait noir. Ils pleurent fort pour qu'on les entende bien. Pour les consoler, il faut les yeux gentils et la petite lumière à côté du lit. Les grands, au contraire, aiment dormir dans le noir. Ils ne pleurent presque jamais, même si le shampoing leur rentre dans le nez. Et si ça arrive, ils pleurent tout bas, tellement bas que les enfants ne s'en aperçoivent pas. Ou ils font semblant de ne rien voir. Les enfants ressemblent à des éponges. Ils absorbent tout. La nervosité, les mauvaises idées, les peurs des autres. Ils semblent oublier, mais tout ressort dans le cartable ou sous les draps ou encore devant un livre. Les enfants aiment être écoutés avec les yeux écarquillés. Les enfants possèdent des petites choses à leurs images. Un petit lit, des petits livres colorés, un petit parapluie, une petite chaise. Mais ils habitent dans un monde très grand, tellement grand que les villes n'existent pas, les bus montent tout en haut dans l'espace et les escaliers ne finissent jamais. Les enfants, on le sait, n'aiment pas aller à l'école. Les enfants aiment sentir l'herbe en fermant les yeux, poursuivre les pigeons en criant, écouter la voix lointaine des coquillages, froncer le nez devant le miroir. Il y a des enfants de tous les genres, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les enfants qui ne veulent pas grandir ne grandiront jamais. Ils garderont un mystère dedans. Alors, même adultes, ils seront émus par des petites choses, un rayon de soleil ou un flocon de neige. Il y a des enfants étranges, petits, ronds, silencieux. Enfants à lunettes sur le fauteuil roulant, enfants avec l'appareil dentaire qui scintille au soleil. Enfants épuisants, odieux, qui ne veulent jamais se coucher. Enfants gâtés, qui n'en font qu'à leur tête. Enfants qui cassent les assiettes, les bols et tout le reste avec. Tous les enfants sont des petites personnes qui vont changer. Ils n'iront plus à l'école, mais au travail. Peut-être qu'ils seront heureux, qu'ils auront la barbe ou les moustaches en l'air ou les cheveux teints en vert. Peut-être qu'ils feront des caprices pour des choses étranges comme un téléphone qui ne sonne pas ou la circulation. Mais pourquoi s'en soucier maintenant? Un enfant est une petite personne. À présent, pour s'endormir, il a besoin des yeux gentils et de la petite lumière à côté du lit. Voilà, c'était « C'est quoi un enfant ?» de Béatrice Alemagna aux éditions Autrement Jeunesse. Alors oui, un enfant c'est une petite personne qui a besoin de yeux gentils pour bien s'endormir la nuit, d'oreilles câlines pour être écoutée, de sourires en coin pour être encouragée, de mains tendres pour être aidée à cheminer, à traverser les routes et les prés, les rivières et les mers. Alors oui, un enfant est une petite personne, mais qui a des droits comme les grandes personnes, à la santé, à une maison, à des cahiers, à des leçons, à des jouets, l'éducation et des pensées, des réflexions. Non pas pour être par trop choyé, gâté, auréolé ou surbécoté, mais pour grandir doucement, pour un jour voler gaiement de ses propres petites ailes, ailes de curiosité, de fraternité, de partage et de voyage, ailes de liberté pour un ciel de nuages ou en couleur et en gaieté. Alors aujourd'hui, nos grandes personnes ailées étaient Catherine Claveau, dans les ailes de conseillère pour la défense internationale des droits des enfants, Sylvère Petit, dans les ailes de monteur son et de technique radio, et moi-même, dans mes ailes de Donatienne Rank. Alors, chères petites et grandes ailes buissonnières, je vous dis à bientôt et bon vent. Thank you.